Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Yuktu Diego Aclopes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
La guerre économique qui oppose les États-Unis et la Chine s'étale en pleine page de nos journaux depuis des mois. Les affrontements militaires d'hier semblent avoir cédé la place à des conflits commerciaux entre pays industrialisés. Mais la guerre, la vraie, celle qui se déroule sur les champs de bataille, a-t-elle toujours maille à partir avec l'économie ? Quel regard les économistes posent-ils sur les conflits qui jalonnent l'histoire ? Demain, nous nous glisserons dans la peau des mercenaires qui vendent leur habileté au combat depuis des millénaires. Mercredi, ce sont les chemins de traverse de l'économie en temps de guerre que nous suivrons, avant de voir comment les villes détruites peuvent renaître de leurs cendres. Mais d'abord, quelle place pour la guerre dans la théorie économique ? Vous écoutez France Culture et c'est l'heure belliqueuse d'Entendez-vous l'écho. Guerre et paix, une histoire de cycle, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Christian Schmitt, économiste, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine, et Fanny Coulon en duplex de France Bleu Isère, maîtresse de conférences en économie à Sciences Po Grenoble. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Christian Schmitt et Fanny Coulon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va voir comment les économistes se sont emparés de la question de la guerre. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire, Fanny Coulon, que la guerre reste une forme d'impensé dans l'analyse économique ?
Oui, tout à fait, parce que le courant libéral, en fait, a dominé la pensée économique pratiquement depuis l'origine. Alors, il y a un premier courant qui est le courant mercantiliste, qui n'est pas une école de pensée constituée, qui se développe en Europe à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, et qui considère que l'économie est au service de la guerre, donc qui développe des premières réflexions économiques pour expliquer comment financer les conflits et comment surtout renforcer la puissance de l'État. En prônant notamment le protectionnisme et le développement du militarisme, donc des politiques très offensives, agressives. Mais en fait, ce courant va être contesté au début du 18e siècle par le courant libéral qui va se développer principalement en Grande-Bretagne. Donc on parle des classiques britanniques, donc avec Adam Smith, puis plus tard David Ricardo, Thomas Robert Malthus, etc., John Stuart Mill. Et ce courant libéral est toujours dominant aujourd'hui.
Alors on va voir, il va falloir détailler, Fanny Coulon, tout ce que vous nous avez dit, c'est passionnant, il va falloir y aller pas à pas, Christian Schmitt.
Oui, alors je voudrais faire tout de même une petite exception. Adam Smith, considéré parfois comme le père de l'économie classique, a réservé deux chapitres, le chapitre 5 et le chapitre 6, qui sont en dehors de l'échange libéral et dans lequel intervient l'État pour prendre en charge la protection des citoyens et financer par conséquent les guerres. Ça, c'est un point qu'on oublie. Il y a toute une partie où, contrairement à ce que l'on pense, il y a une économie publique et la principale activité de cette économie publique, c'est la défense des citoyens. Et donc, là, d'une certaine manière, la guerre ou sa préparation est intégrée dans le format de l'économie classique.
Et c'est ce qui permet de réunir les conditions nécessaires au commerce, Christian Schmitt.
Tout à fait. Et alors, ce qui montre déjà chez Smith, c'est pas le doux commerce. L'expression n'est pas exacte. Dans le cas des grands classiques, le commerce, c'est également une forme de guerre. Je veux dire, je me permets de citer un autre auteur, beaucoup peu connu et beaucoup plus récent, qui s'appelle Edgeworth, et qui a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle Mathematics Psychics. Et dans Edgeworth, il dit très nettement, bien, qu'est-ce qu'il y a dans... C'est la lutte. Il y a d'un côté la lutte pour le pouvoir, c'est la politique, c'est la guerre. Et de l'autre côté, il y a la lutte pour la richesse, et c'est l'économie.
Et bien justement, on va écouter un extrait du traité de stratégie militaire écrit par le général prussien Karl von Clausewitz au début du 19e siècle.
La guerre ne fait pas partie des domaines des arts et des sciences, mais de celui de la vie sociale. elle est un conflit entre de grands intérêts qui se trouvent une solution sanglante. Et ce n'est qu'en cela qu'elle se distingue d'autres conflits. Mieux qu'un art, quel qu'il soit, on la comparerait au commerce, qui lui aussi est un conflit entre intérêts et activités des hommes. Et elle est encore beaucoup plus proche de la politique, laquelle, elle également, peut être considérée comme une sorte de commerce à grande échelle.
Un extrait lu par Romain de Bec de Lièvre. On entend bien ici, Fanny Coulon, que pour Clausewitz, oui, l'art militaire est comparable au commerce et à la politique.
Tout à fait. Mais pour en revenir avec le fait que la guerre est un impensé économique, c'est vrai qu'Adam Smith a affirmé que la défense était plus importante que l'opulence. C'est notamment, il défend les actes de navigation, c'est-à-dire l'exclusivité pour les navires britanniques d'acheminer les marchandises étrangères en Grande-Bretagne. Mais il a néanmoins une conception défensive qui va rester prédominante dans l'analyse économique, beaucoup plus qu'offensive. Donc les militaires est là pour protéger le territoire national contre une éventuelle agression. Mais au niveau international, il faut le libre-échange. Il faut, notamment en 1776, il préconise l'abandon des empires coloniaux. Et donc, il considère que pour la Grande-Bretagne, c'est un fardeau militaire inutile. Et il y a un très fort pacifisme, quand même, qui est issu du courant libéral et qui a perduré jusqu'à nos jours. Parce qu'avec le développement des modèles mathématiques en économie, donc dans la mouvance néoclassique, tout ce qui est politique a été évacué du champ de l'analyse économique. Et donc, aujourd'hui, on en est toujours là.
Christian Schmitz, une réaction à ce texte de Clausewitz ?
Oui, alors je pense qu'au contraire, chez Clausewitz, on a peut-être l'ancêtre d'une autre partie de l'économie, en microéconomie, qui est la rencontre entre l'analyse économique et les mathématiques à travers la théorie des jeux. Et on le sait bien que beaucoup d'idées de Clausewitz ont été traduites mathématiquement en théorie des jeux, et je n'ai pas la peine de le rappeler ici, mais tout le monde sait que l'origine des nouvelles stratégies nucléaires, dissuasion, etc., sont liées à la théorie des jeux, dont le principal objet est malgré tout, voire le titre du livre fondateur, l'économie.
Ce que vous voulez dire, Christian Schmitz, c'est que la stratégie militaire s'inspire de la stratégie économique et inversement ?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un lien entre l'analyse stratégique en général avec des champs d'application différents, la politique, bien sûr, d'abord, avec le militaire, mais également l'économie, puisque Theory of Games and Economic Behavior, c'est Economic Behavior, mais ça peut être Strategic Behavior.
Alors vous disiez, Fanny Coulon, que chez les mercantilistes au XVIe et au XVIIe siècle, il y avait cette idée que la guerre est nécessaire au développement de la puissance de l'État et de ses forces productives. Et ce qu'on observe, c'est que c'est une théorie qui va être reprise par l'école historique allemande qui se rassemble autour de la figure de Werner Sombart au tournant des XIXe et XXe siècles, avec cette idée que le capitalisme et l'industrie se sont développés grâce à la guerre.
Tout à fait. Il y a l'école historique allemande, effectivement, qui considère que la guerre est une étape nécessaire dans le développement des nations et dans leur. Mais qu'à terme, la guerre aura tendance à disparaître avec le développement économique. Et on a toujours cette idée dans beaucoup de courants que sur longue période, il y aura une paix globale au niveau international liée au fait que les pays auront en quelque sorte compris les avantages du commerce réciproque. Et on trouve ça même dans l'école historique allemande. Et il y a avant aussi Friedrich List en Allemagne en 1840, qui est un économiste extrêmement célèbre, l'économiste du nationalisme économique, qui considère que l'Allemagne en 1840 doit conserver une puissance militaire très forte et ne doit pas ouvrir son marché aux produits notamment britanniques, français, etc., ce qui empêcherait à son industrie de se développer, parce que l'industrie allemande à l'époque est beaucoup moins développée que l'industrie britannique, par exemple.
C'est déjà la guerre économique.
Voilà, on est complètement dans la guerre économique. Et d'ailleurs, dans les... Cette idée de la guerre économique et du néo-mercantilisme, on en a reparlé dans les années 90,
oui.
Quand les États-Unis, qui sont un peu sur le déclin à l'époque, font une offensive très importante, notamment avec les technologies de l'information et l'espionnage économique, sur la scène mondiale, pour essayer de contrecarrer leur soi-disant déclin économique. Et les moyens militaires occupent une place très importante dans leur reconquête, notamment technologique.
Alors on ne va pas aller trop vite en besogne, moi je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette idée que le commerce adoucit les mœurs, chez Montesquieu, chez Kant. Il y a cette idée qui est développée, Christian Schmitt, et qui va ensuite infuser la pensée économique, que le commerce est ce qui permet de réduire les conflits à la fois entre les hommes et entre les nations.
Oui, c'est ce que j'ai nommé tout à l'heure le doux commerce. Bon, c'est une, effectivement une version de le commerce, c'est une relation d'affinité aussi. Et puis, on apprend l'autre en commerçant. D'ailleurs, on dit le commerce ne s'applique pas simplement aux biens, mais qu'on dit il y a un commerce agréable. Bon, il y a effectivement une dimension, je dirais, psychologique ou sociologique dans les vertus du commerce.
Et c'est une pensée qui se développe à mesure que se développe le libéralisme économique et le libéralisme politique.
Le texte de Kant, Vers la paix perpétuelle, 1795, donc on est après la Révolution française. Et on peut dire qu'il y a une condition qui commence à devenir plus crédible, qui est l'idée d'une républicanisation possible des États d'Europe. Donc par exemple, l'obstacle fondamental pour Rousseau, c'était l'idée que les grandes monarchies, potentiellement despotiques, sont animées par le désir de domination, le désir de distinction, le désir de gloire, et que jamais ce désir ne pourra se subordonner à l'intérêt éclairé. Parce qu'au fond, les monarques préfèrent toujours leur grandeur au bonheur de leur peuple.
Mais si le peuple parvient à se libérer, cela change la donne.
Et bien voilà, c'est-à-dire que si on arrive à une forme républicaine, si les peuples eux-mêmes décident de la guerre et de la paix, eh bien ils savent qu'ils devront payer le prix des guerres meurtrières. Et dans ce cas, eh bien Kant escompte du fait que voilà, les républiques pourront à terme effectivement se comporter de manière plus pacifique.
Fanny Coulon, que vous inspirent ces propos de la philosophe Céline Spector qu'on avait reçue à Entendez-vous l'écho ?
Oui, tout à fait. Cette question de l'éducation de l'opinion publique à la paix est très importante en fait dans l'histoire de la pensée économique. Il y a tout un mouvement issu donc du libéralisme des origines qui se développe en Europe à la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale qui lie complètement l'essor du commerce mondial avec la paix internationale. Il y a un grand économiste français du début du 19e siècle, Jean-Baptiste Say, qui considère que les opinions publiques seront bientôt toutes gagnées à la cause du libéralisme, en voyant que c'est le modèle qui fonctionne le mieux, qui leur apporte le plus de prospérité, et que de ce fait, les guerres disparaîtront d'elles-mêmes entre les pays. Oui, mais cette idée est quand même très contrecarré, et donc la douche froide, ça va être la Première Guerre mondiale quand même, qui survient dans un monde très globalisé déjà à l'époque, avec beaucoup d'interdépendance économique et même des échanges financiers entre les pays, et donc qui n'ont pas empêché ce conflit mondial.
Christian Schmitt.
Alors oui, bien sûr, le facteur mondialisation a joué d'abord dans un sens positif, dans le sens qui est expliqué. En revanche, il est aussi à l'origine des grandes périodes de guerre, et ça nous amène à une autre perspective, qui est la perspective historique, mais non pas d'histoire des idées, mais d'histoire des faits, avec les alternances de périodes de cycles, en quelque sorte, rapprochant l'économie et la guerre. Et c'est un point important que l'on va certainement...
On va en venir à la question des cycles, mais vous avez cité, Fanny Coulon, tout à l'heure, l'économiste allemand Frédéric List, qui estime que les libéraux n'ont pas pris la mesure de l'influence de la guerre sur l'économie. Comment est-ce que vous expliquez que les libéraux, justement, laissent de côté la guerre dans leur analyse économique ?
Bien, la guerre, c'est l'État. L'État qui prend, alors surtout si c'est un conflit mondial, qui prend le contrôle de l'économie. Il y a des nationalisations. Donc évidemment, c'est la terreur des libéraux. De toute façon, par exemple, le libre-échange ne peut fonctionner. Les avantages du libre-échange n'apparaissent qu'en absence, par exemple, de droits de douane. Donc il ne faut pas qu'il y ait de guerre commerciale entre les pays. Tous les modèles libéraux montrent l'avantage du libre fonctionnement des marchés en l'absence d'intervention de l'État, qui reste limitée au domaine régalien, police, justice, défense. Mais, donc voilà.
Christian Schmitt.
Pour rester dans notre sujet, il y a quelque chose qui, effectivement, ne plaît pas par définition aux libéraux, c'est ce qu'on appelle les communes de guerre. Parce que les communes de guerre, c'est l'organisation de l'État pour faire face à l'ennemi, et l'organisation de l'État, c'est effectivement une économie dirigée. Et on voit mal...
Mais qui peut avoir un impact positif sur l'économie.
Tout à fait, et je dirais même que c'est comme ça que une certaine forme d'économie du welfare est née. Elle est née par l'idée qu'effectivement, on peut organiser au niveau étatique et peut-être réduire les inégalités, avoir une meilleure redistribution, etc. Donc il y a une sorte d'expérience de la guerre, du point de vue économique, qui a une portée sur l'évolution même de l'économie.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'exemple de la guerre, de l'économie dirigée par l'exemple de la guerre, a ensuite entraîné l'économie dirigée dans le cadre de la sécurité sociale, effectivement, de l'État-providence.
Il fait pas un hasard si, effectivement, l'économie post-keynésienne est assez dirigiste, organisée, et a été enfantée, en quelque sorte, par la guerre mondiale, la deuxième grande guerre mondiale.
Fanny Coulon, vous vouliez réagir ?
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je peux en venir à John Maynard Keynes tout de suite, parce que oui. Bon, parce que John Maynard Keynes, donc c'est le grand théoricien qui a évidemment révolutionné la pensée économique dans les années 30, en publiant la théorie générale en 1936. Et John Maynard Keynes donc préconise de sortir de la crise économique très grave de l'époque, donc débutée en 1929 bien sûr, et qui met en péril les démocraties par notamment des investissements publics, parce que en période de crise profonde, seul l'État est en mesure de réaliser des investissements sans considération de rentabilité. Alors, ça amène évidemment à la question du réarmement de l'industrie militaire, parce qu'on est là dans les années 30. Qu'en pensait Keynes de justement cette question militaire Alors, il en a dit très peu. En fait, lui, personnellement, était antimilitariste hein, au niveau de son opinion personnelle, proche des objecteurs de conscience dans sa jeunesse. Et il a eu beaucoup de mal à reconnaître l'effet des dépenses militaires sur la croissance économique, mais il y a quand même quelques, parce qu'il a beaucoup écrit des articles, etc., il y a quand même quelques traces de sa pensée où il considère que les dépenses militaires sont des dépenses publiques qui peuvent avoir un effet de relance de l'économie.
Mais à court terme.
À court terme, ça suffit, parce que l'enjeu, c'est de sauver les démocraties, notamment contre le risque de communisme, du fascisme. Et donc, il considère que, bon, c'est un peu triste que ce soit le militaire, mais que c'est bien que la Grande-Bretagne fasse des grands emprunts dans les années 30 pour financer le réarmement, enfin, le gouvernement britannique. Il considère que c'est, en fait, la bonne voie. Il va même, alors, c'est plus controversé, mais il va reconnaître l'effet aussi de relance de l'économie allemande par le réarmement accéléré du régime. Alors,
Christian Schmitt veut réagir à cela.
Oui, il y a justement un point très important. C'est la position qu'a pris Keynes sur le traité de Versailles, avec un ouvrage, Les conséquences économiques de la paix. C'est-à-dire qu'il a fait une analyse qui est centrale, qui est de dire, au fond, de vouloir affaiblir l'Allemagne, ça serait une faute politique et économique. Et il n'a peut-être pas tort. Là, il a pris, comme il l'a fait souvent, parce que c'est intéressant, on voit Keynes le théoricien, mais c'est un théoricien engagé. Et sur cette question précise, il a pris une position qui n'était pas partagée par tous. Il y a eu un long débat sur les conséquences économiques de la paix et sur le traité de Versailles.
Il a aussi été influencé par Norman Angell, l'homme politique anglais qui était son grand ami. Je vous propose justement d'écouter un extrait d'un texte de Norman Angell.
Très bien. En politique, il est malheureusement vrai que 10 écus qui peuvent être vus ont beaucoup plus de poids sur l'esprit du public qu'un million d'écus qu'on ne peut pas voir, mais qui n'en sont pas moins réels. C'est pourquoi, si clairement qu'on puisse démontrer que les dépenses d'une guerre sont faites en pure perte et qu'il est impossible au vainqueur d'en tirer aucun avantage permanent, Au point de vue économique et social, le fait que l'Allemagne a pu extorquer une indemnité de 5 milliards à la France à l'issue de la guerre de 1870-71 n'en est pas moins considéré comme preuve qu'une nation peut s'enrichir par la guerre. Le vice caché réside dans la méconnaissance de l'importance essentielle des faits qui précèdent et suivent une guerre comme celle de 1870. Lorsqu'il s'agit de puissances industrielles, comme l'Angleterre et l'Allemagne, dont la vie économique et l'alimentation de leur population ouvrière exigent que l'étranger soit toujours prêt à acheter leurs produits, tout acte de brigandage international, tout prélèvement d'indemnité de guerre qui limite la puissance d'achat de l'étranger, ont une répercussion inévitable sur la nation qui a usé de ces procédés. On peut dire que le coût de la guerre franco-allemande a moins pesé sur la France que sur le reste de l'Europe et sur l'Allemagne elle-même, par suite des charges écrasantes du militarisme et de la situation politique générale que la guerre a créée, ou en tout cas aggravée.
Voilà un texte lu par Antoine Beauchamp. Cette idée qu'une nation peut s'enrichir par la guerre, ici remise en cause par Norman Angell, cette remise en cause va inspirer Keynes, Christian Schmitt ?
Non, pas directement, mais elle marque un tournant dans lequel la guerre n'est pas neutre économiquement. On va en débattre. Elle peut engendrer des situations positives, des situations négatives, à la fois sur les échanges extérieurs, exportation, importation, on verra dans le cas français contemporain, et c'est peut-être un tournant en ce sens. Maintenant, la position elle-même de Keynes sur le traité de Versailles a eu, là aussi, a engendré un débat avec un économiste français qu'on a un peu oublié, et c'est peut-être à cette époque qu'il y a eu vraiment une analyse avec des faits, c'est qui est rappelé, de l'effet de l'économie de la guerre sur l'économie et vice versa.
Donc ça commence avec la guerre de 1870 et ça continue en particulier avec la Première Guerre mondiale, Fanny Coulon.
Et ça va se poursuivre avec la Seconde et on en reparlera parce que là il y a un lien direct guerre et paix.
On va y revenir, Fanny Coulon. Voilà.
Oui. Norman Angell était bien connu de John Maynard Keynes, qu'il avait félicité pour son ouvrage La Grande Illusion, qui avait fait grand bruit à l'époque, et dans lequel il préconisait le désarmement en Europe. Hein, donc, il s'inquiétait de la course aux armements qui risquait de déboucher sur un conflit. Bon, là, avec Norman Angell, on est complètement dans le courant pacifiste libéral, oui, que certains, par la suite, ont pu qualifier d'un peu peut-être naïf et typique d'une position un peu attentiste face à la menace des dictatures et surtout du nazisme en Allemagne.
Celui qui a peut-être plus inspiré Keynes, c'est peut-être Malthus, puisque Malthus, dès le début du 19e siècle, reconnaissait un intérêt économique à la guerre, Fanny Coulon.
Ah oui, alors Malthus, c'est un contemporain donc de David Ricardo. Donc là, on est au début de l'école classique britannique. Il a beaucoup inspiré Keynes, qu'il admirait énormément. Mais Malthus était un libéral, mais qui s'inquiétait beaucoup du problème de la pénurie de biens alimentaires face à la croissance démographique de la Grande-Bretagne à l'époque. Et il pensait, donc c'est très connu, c'est le malthusianisme bien sûr, qu'à terme, il y aurait plus suffisamment de ressources alimentaires pour nourrir toute la population. Et il disait, heureusement, Dieu, c'était un pasteur, hein, Malthus, Dieu nous envoie des fléaux qui permettent de contenir la démographie et notamment la guerre qui a ce rôle en détruisant des vies humaines, de limiter le problème, ou en tout cas de retarder le problème de manque de ressources naturelles. Et le malthusianisme est réapparu à notre époque. Hein, donc de plus en plus, on parle, et à raison, des conflits qui sont générés par des problèmes qui liés à la pénurie de ressources alimentaires ou d'autres types de ressources naturelles plus ou moins stratégiques.
Christian Schmitt, par exemple.
Faut pas oublier que l'élément central de l'analyse de Malthus et original, c'est la démographie. Alors là, aujourd'hui, on retrouve le problème de la démographie, mais effectivement, un des premiers effets de la guerre, c'est un effet sur la démographie, c'est les pertes. Hein. Bon, par conséquent, il n'est pas étonnant que mettant l'accent sur ce facteur, plus que certains de ses prédécesseurs, il ait été par ce biais un des premiers à réfléchir aux conséquences de la guerre, dont certaines ne sont peut-être pas les pires pour lui.
Fanny Coulon, vous aviez donné des exemples, je vous ai interrompu un peu vite, pardonnez-moi. Oui.
Oui, alors par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, notamment au sein des Nations Unies, sur le rôle, sur le lien entre le changement climatique et les conflits contemporains. C'est une question qui est... Et puis, il y a beaucoup aussi de travaux un peu d'anticipation sur ces questions. Parce que, évidemment, par exemple, on a parlé du rôle de la désertification dans les campagnes syriennes, par exemple, qui ont entraîné des migrations de populations rurales qui sont venues se masser dans des banlieues de grandes villes. Et y aurait eu des... ça a été un facteur aggravant, si vous voulez, du conflit syrien, de la guerre civile. Potentiellement, la montée des eaux, la désertification, notamment en ce moment, oui, dans le proche Moyen-Orient, a des conséquences avec des flux migratoires et des risques de conflit.
Mais alors, pour revenir à cette idée selon laquelle le marché pacifie la rivalité, selon laquelle l'enrichissement met fin au conflit, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces idées qui ont pu naître peut-être au XVIIIe siècle, avec les débuts de l'industrialisation, ont refait surface avec la théorie de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama au début des années 90, Christian Schmitt.
Oui, effectivement, il y a une relation entre les deux, mais bien des choses se sont passées, et j'aimerais qu'on insiste sur un autre point, qui est les liens entre les moyens de défense et la haute technologie. C'est-à-dire que, d'un autre côté, la défense, et par conséquent la préparation à la guerre, est devenue un élément central pour permettre justement une avancée technologique avec ses retombées sur le civil.
Et ça sera notamment après la Seconde Guerre mondiale, on va y venir, Fanny Coulon.
Oui.
Sur cette idée de l'enrichissement qui met fin au conflit et qui a donc infusé cette pensée économique jusqu'aux années 90.
La pensée de la fin de l'histoire, vous voulez dire de Francis Fukuyama?
Oui.
Francis Fukuyama, oui, c'est une pensée. Alors, Francis Fukuyama est un néo-conservateur. Hein. Donc, il y a une pensée, derrière cette idée, il y a l'idée aussi que l'économie de marché, plus ou moins associée au modèle démocratique, est le meilleur modèle et qui finira par s'imposer à tous les pays du monde. Bon, ce qui peut être une idée qui a d'ailleurs été un petit peu à l'origine de certaines opérations militaires américaines, la guerre globale contre le terrorisme, on retrouve derrière un peu cette idée qui est évidemment contestée. On n'a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de le mentionner, le courant marxiste, hein, qui est aussi la théorie de l'impérialisme notamment, qui montre... qui présente la question de la guerre en rapport avec l'économie de façon très différente et qui considère que les puissances économiques capitalistes ont besoin du militarisme, donc c'est complètement le contraire du libéralisme, ont besoin du militarisme pour asseoir leur hégémonie, continuer à pouvoir avoir des relations économiques internationales à leur profit, notamment par le biais des multinationales en sécurité, les marchés extérieurs, les zones d'influence, etc. Certains sont même allés jusqu'à considérer que la guerre globale contre le terrorisme qui commence aux États-Unis en 2001 avec l'invasion de l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre, que cette guerre est tombée à pic pour relancer l'économie américaine via l'industrie d'armement, via les sociétés militaires privées et redonner en fait une image positive aux États-Unis sur la scène mondiale,
bon, ce qui a alors, été vraiment justement pour les théoriciens des cycles, on va voir que le développement de l'économie, pour certains d'entre eux en tout cas, ce développement de l'économie mène nécessairement à la guerre. On va en parler dans un instant.
Des fois pas sans faire, on les aura ou tout cher dans les pécoliers. J'abîme les plates-bandes, des centaines de flottes et les rubans, ou bien ce qui pas des cancans. Tu bouscules la pot de fleurs, ou encore est ta soeur, est-ce qu'elle va le voir? Mais le prix le plus réputé, et celui qu'on vient de lancer, c'est la guerre. Quand on s'achète les commerçants, que tout augmente, ils disent vivement, c'est la guerre. Si
charcutier chez le Pougnat, et même chez Madame Pierre-Moitelin, c'est la guerre. Et la grande cocotte maintenant, au lieu d'un tout vous prend un bras, c'est la guerre.
C'est la guerre, chante Henri en 1914. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Christian Schmitt et Fanny Coulon en duplex de Grenoble sont toujours avec nous pour parler de la guerre dans la pensée économique. Alors selon les théoriciens de l'économie, la guerre est tour à tour cause ou conséquence de la croissance. Alors que nous dit sur ce point la théorie des cycles élaborée par l'économiste soviétique Nikolai Kondratiev? Et d'abord, Fanny Coulon, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la théorie de Kondratiev?
Alors, Kondratiev, c'était un économiste soviétique qui a écrit principalement dans les années 30 et qui a montré, enfin, il a voulu montrer qu'il y avait dans l'histoire du capitalisme, depuis le début du 19e siècle, des cycles économiques longs, donc de longues périodes. Alors, bon, sur
40
sur les
à durées, 60 ans.
Voilà. Donc. Oui, une cinquantaine d'années. Donc avec alternance de phases de croissance longue, ce qui n'empêche pas des petits aléas entre-temps. Donc des phases de croissance longue et ensuite des phases de crise longue. Kondratiev, pour la petite histoire d'ailleurs, a fini fusillé après avoir été déporté au goulag par Staline, qui appréciait pas du tout son analyse, parce que son analyse montrait que le capitalisme renaissait toujours de ses cendres finalement. Mmh. Que même une crise longue, contrairement à ce que disait Lénine par exemple, pouvait être surmonté par le capitalisme et qui repartait dans une phase ascendante.
Et ce qu'il montre, c'est que c'est dans une période de croissance économique que la guerre survient.
Voilà. Alors, Kondratiev, c'est ce qu'il pensait. Alors, cette analyse des cycles, en fait, est très contradictoire. En fonction des auteurs, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Pour Kondratiev, son point de vue, c'était que la croissance économique finissait par générer des tensions sur les ressources naturelles. Donc, on connaît ça aujourd'hui. Hein. Il y a une concurrence sur les matières premières, notamment. Et puis, il y a une concurrence aussi sur les marchés extérieurs, parce qu'on finit par trop produire. Donc, il faut écouler les produits sur d'autres marchés que le marché national. Donc ça, c'est très marxiste. Hein. Et donc, il faut... au fur et à mesure que la croissance dure, il va y avoir de plus en plus de tensions. Ça va déboucher sur un conflit de grande ampleur.
Et ça peut être un conflit international et ça peut aussi être une guerre civile, Christian Schmitt.
Bon, surtout, je pense qu'on peut compléter cette analyse par des travaux récents, plus récents, notamment d'un Américain, Goldstein, qui a, lui, à son tour, observé des cycles longs de guerre. Ce qui est intéressant, donc le problème était, il y a des cycles économiques, bon, on va en discuter techniquement, mais enfin, grosso modo, on admet qu'il y a des phases d'expansion et des phases de récession. Ce qu'a découvert Goldstein, c'est qu'il y a également des cycles de guerre et de paix, à peu près de même longueur. Bon, je passe sur les détails. Le problème est devenu, quelle relation y a-t-il entre les retournements de cycle de paix et de guerre et ceux de l'économie? Et là, on a tout de même deux exemples intéressants. Bon, le premier est évident. On a la crise de 29, qui est une des plus grandes crises observées, économiques, dramatiques pour certains pays, dont l'Allemagne. Et après... on a la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai recherché si on retrouvait le même phénomène pour la Première Guerre mondiale. Alors, on n'a pas la même ampleur, mais on a découvert que en 2008, il y a eu un krach financier énorme à New York et qui a eu des effets sur toutes les places financières et qui a vraiment mis à mal l'économie financière. Donc, il y a probablement, mais c'est une hypothèse, des relations entre les mouvements économiques, macroéconomiques et les mouvements militaires, ce qui, si mais on arrive à la période contemporaine, c'est inquiétant.
Mais comment est-ce qu'il corrèle ces deux...
La crise de 2008 pourrait, à son tour, engendrer, et on est dans une période où il y a beaucoup de guerres.
Mais concrètement, Christian Schmitt, comment est-ce qu'il corrèle ces cycles économiques et ces cycles de guerre? Qu'est-ce qu'il en dit?
Non, pour l'instant, il observe qu'il y a une corrélation statistique, Et il explique leur passage du, selon, j'en ai donné deux exemples, hein, quand il y a un fléchissement global et extrêmement important, ça va entraîner des problèmes internationaux entre les États qui vont en quelque sorte
accentuer... Donc c'est le ralentissement de l'économie qui crée la guerre dans, oui, son, dans son
tout à fait,
développement.
Dans son type, oui. Ce sont les phases de ralentissement brutal qui peuvent entraîner des chocs dont, en quelque sorte, le mouvement réparateur, paradoxalement, serait la guerre. Et finalement, elle l'a été puisque... les reprises économiques qui ont suivi les deux
guerres. Alors ça, c'est l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, mais si on étudie un économiste comme l'économiste suédois Johan Ackermann, pour lui, ce sont les crises politiques, comme les guerres, justement, qui entraînent des crises économiques, Fanny Coulon.
Oui, les crises économiques sont des conséquences de la guerre chez Ackermann, tout à fait. Moi, je pense que cette analyse cyclique est compliquée parce que il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'asymétrie entre les pays au niveau des dépenses militaires. Donc l'effet, par exemple, les États-Unis sont aujourd'hui à 36% des dépenses militaires mondiales, même plus hein, selon certaines, parce qu'il y a beaucoup de dépenses militaires dans d'autres budgets que le budget du Pentagone. Et donc on peut pas raisonner de la même manière pour l'économie américaine que pour d'autres pays, sachant que les 9 autres pays qui arrivent derrière, à eux seuls, font pas autant que les États-Unis si on prend au sens large les dépenses américaines. Donc ce qui est sûr, c'est que les dépenses militaires américaines sont curieusement cycliques. C'est assez étonnant quand on les observe. On voit que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des cycles très réguliers avec des pics. Alors, il y a eu le pic de la guerre de Corée, puis le pic de la guerre du Vietnam, après le pic de la guerre des étoiles de Reagan qui a relancé la guerre froide, et pour certains qu'il a gagné en épuisant militairement les soviétiques. Et puis après, le nouveau pic, ça a été la guerre globale contre le terrorisme à partir de 2001. Et donc, il y a un côté très cyclique et qui, alors pour certains économistes, c'est vrai que sans doute plus dans le champ du marxisme, il y a un effet effectivement un effet qui vient de l'intérieur des États-Unis, endogène, et en lien avec l'économie et la nécessité de la relancer.
Alors on va y revenir, Fanny Coulon, mais d'abord que la guerre soit une cause ou une conséquence de la croissance économique, il y a quand même cette idée que la guerre a un rôle central dans ces cycles économiques, et par exemple c'est une conception qui s'oppose à celle de Joseph Schumpeter, qui lui pense que c'est l'innovation et non pas la guerre qui agit sur les cycles.
Ce ne sont pas les mêmes cycles, ce sont des cycles beaucoup plus courts.
Alors Fanny Coulon d'abord et Christian Schmitt ensuite.
Tout. Oui. Alors Joseph Schumpeter donc c'est un économiste libéral d'origine autrichienne et donc qui était très opposé au militarisme comme beaucoup de libéraux et qui a avec assez de virulence complètement nié l'importance du militarisme dans la survenue d'innovations majeures. Et lui il considère que ce qui explique les cycles longs et le retournement notamment d'un cycle, la fin par exemple d'une crise économique longue, c'est l'apparition d'une innovation majeure qui, en fait, va créer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux besoins. Et il va y avoir, donc, par exemple, à notre époque récente, l'économie de l'Internet et autour des technologies de l'information. Et donc, ces innovations majeures permettent de réamorcer une phase de croissance longue. C'est la destruction créatrice. Donc, il y a des marchés qui disparaissent et de nouveaux qui apparaissent. Mais Schumpeter, et là, c'est en fait une grande controverse, il nie complètement l'influence du secteur militaire dans l'apparition de ces innovations majeures.
Et alors on disait qu'avec Ackermann, il y avait cette idée que les crises politiques et les guerres entraînent des crises économiques, puisqu'il y a toute une série de conséquences de la guerre, le fait que l'État intervient davantage, comme on le disait tout à l'heure, le jeu de l'offre et de la demande qui s'en trouve perturbé, et puis évidemment la perte de capital humain. Et pourtant ce qu'on constate, Christian Schmitt, c'est que la longue phase de croissance qui suit la Deuxième Guerre mondiale contredit cette théorie.
Oui, non. Oui et non, parce qu'il y a eu on est reparti très bas, mais on a justement, il y a eu un facteur accélérateur du fait de la guerre, par des investissements plus importants, par justement des politiques keynésiennes suivies un peu partout, qui sont à l'origine d'un taux de croissance régulier et en quelque sorte. Donc, en quelque sorte... le mal, la guerre, a engendré un certain bien économique, c'est-à-dire a mis la plupart des États sur une pente de croissance régulière. Et donc, c'est complexe. Peut-être que l'erreur serait de chercher une causalité. Il y a peut-être plusieurs causalités différentes selon les données, les perspectives.
La croissance économique de cette période peut aussi être liée, donc c'est 30 glorieuses, ça peut être lié aussi au nouveau système monétaire international qui est issu de la guerre.
Et lui-même lié à l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on s'est dit on ne peut pas rester dans des monnaies nationales, etc.
Donc, puis il y a le rôle des organisations internationales aussi qui émergent à partir de cette période.
Tout à fait. Donc ce sont des chocs complexes dont on ne peut pas donner une causalité unique.
Ce serait un petit peu rapide, Fanny Coulon, vous êtes d'accord avec ça, de relier les Trente Glorieuses à l'après-Seconde Guerre mondiale et à la guerre générale?
Oui, bien sûr. À moins, encore une fois, de considérer que beaucoup, parce que les Trente Glorieuses, la croissance des Trente Glorieuses est beaucoup expliquée par le progrès technique qui permet des gains de productivité qui permettent à la fois d'augmenter le pouvoir d'achat des populations et en même temps les taux de marge des entreprises, enfin les profits des entreprises. À moins de considérer que ces progrès technologiques comme la robotisation, la mécanisation sont issus de la guerre, c'est très controversé.
C'est ce qu'on a pu considérer au moment de la Première Guerre mondiale, qu'il y avait des progrès techniques aussi et aussi un développement de la métallurgie, de la sidérurgie qui avait ensuite, qui s'était développé et qui avait infusé tout le reste de l'économie.
Le développement de l'aéronautique aussi très important. La Seconde Guerre mondiale, c'est le développement du nucléaire qui donnera le nucléaire civil. Donc il y a énormément d'industries qui se sont développées de façon accélérée avec les deux guerres mondiales. Mais de là à dire que sans ces guerres, ces développements technologiques n'auraient jamais eu lieu, évidemment, c'est un peu abusif. Mais c'est une grande question qui a beaucoup été étudiée. Et voilà, donc pour en revenir à cette question de la croissance de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a aussi sans doute les transferts sociaux qui vont aussi augmenter le pouvoir d'achat des populations.
Et augmenter la demande.
Aussi. Voilà. Et ces transferts sociaux, alors par exemple Schumpeter considérait que les guerres avaient un effet absolument néfaste, qui était la montée en puissance de la bureaucratie. Et il considérait qu'il y avait des effets de cliquet, c'est-à-dire qu'on pouvait pas revenir en arrière une fois que c'était fait, ou très difficilement. Et donc, lui, il était très, très pessimiste d'un point de vue libéral, c'est-à-dire qu'il considérait que toutes les économies finiraient par être finalement de grandes bureaucraties et que les différences avec le modèle soviétique seraient plus si grandes.
Je crois qu'il y a quelque chose qui permet de mieux comprendre ça, qui permet de l'améliorer, c'est simplement les traitements de données. Or, il y a depuis quelques années, même un certain temps, ce qu'on appelle la cliométrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cliométrie? Ce sont les études, en quelque sorte, historiques, de longues périodes, de toutes les données statistiques. La France est bien placée avec un collègue Claude Diebold qui a créé un institut, une association.
Et qu'est-ce que nous apprend la cliométrie?
Elle nous apprend qu'on va regarder de beaucoup plus près à certains indicateurs qui manquent et après, j'allais dire, on éclairera cette question de causalité. En d'autres termes, il y a eu tout un débat entre une école peu connue d'économistes hollandais sur ces questions de relations, cycle de guerre, cycle économique, mais traitement statistique. Donc, à mon avis, la première étape pour en sortir, c'est de mieux connaître les données, après de les interpréter, et on en saura plus tard.
Voilà ce qu'on récolte, monsieur Holmes, quand l'industrie épouse l'armement. Lâchez donc votre pistolet.
Vous vous êtes servi des anarchistes et de leurs attentats pour provoquer une crise européenne, nation contre nation. Sous divers pseudonymes, à coups de complots, de rachats et de meurtres, vous vous êtes infiltré dans de nombreuses industries, sans que nul ne puisse remonter jusqu'à vous. Coton, opium, acier, et à présent armement et arsenal chimique. Le tout livrable à travers l'Europe en moins d'une semaine. Sans oublier les munitions et les bandages. Maintenant que vous contrôlez l'offre, vous voulez créer la demande. Une guerre mondiale.
Un extrait de Sherlock Holmes 2 de Guy Ritchie, sorti en 2011. Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock, veut provoquer une guerre mondiale pour écouler son stock de munitions. Alors, il s'agit évidemment d'une fiction, mais est-ce que certains conflits, Christian Schmitt, ne servent pas à justifier le haut niveau du budget de la défense? C'est ce qu'on a pu entendre aux États-Unis, par exemple.
Oui, sans doute, mais n'oublions pas, je reviens à ma question, le rôle important de la défense dans la recherche, pour des raisons, et en période de guerre encore pire, puisque on a des problèmes de timing. Il faut aller vite. Donc, il y a une pression très forte. Par exemple, il y a toute une série... Alors là, ça a été après la guerre, mais quand on a réfléchi sur le nucléaire, il y avait une énorme pression de concurrence d'instituts pour voir comment on allait créer une doctrine nucléaire. Pas simplement la technique, mais l'usage. La dissuasion du fort au fort, la France avec la dissuasion du faible au fort, etc. En d'autres termes, l'état de préparation de guerre ou de risque de guerre a un effet extrêmement stimulant sur la recherche, en dehors même des crédits importants des budgets militaires.
Donc ce sont des innovations dans le cadre militaire qui ont eu lieu pendant la guerre froide et qui ont ensuite permis à l'économie et notamment aux nouvelles technologies de se développer, Christian Schmitt.
Pas toutes, c'est pas le seul moteur, mais c'est un moteur important pour des raisons singulières de la défense, c'est-à-dire rapidité d'exécution, contrainte et budget assez large et budget public.
Fanny Coulon, sur cette question de l'industrie de la défense aux États-Unis.
Tout à fait, et cet extrait, ça fait penser à un concept qui a eu beaucoup de succès et qui a été énoncé pour la première fois par le président Eisenhower, c'était son discours d'adieu en 1961, donc le président américain, qui a parlé d'un complexe militaro-industriel aux États-Unis, et qui, alors c'est un discours qui est vraiment extrêmement étonnant de la part d'un président américain, parce que c'est un discours qui dénonce le poids de ce complexe militaro-industriel aux États-Unis, donc on est en 61, il dit qu'il y a une sorte, alors il le dit pas comme ça, mais une sorte d'état dans l'état qui s'est mis en place aux États-Unis avec des intérêts convergents entre militaires, industriels de l'armement, mais aussi tous les scientifiques, les chercheurs, universitaires et autres qui sont intéressés par, finalement, qui ont un intérêt à la hausse des dépenses militaires et au maintien d'une guerre froide dure, en fait, avec l'Union soviétique.
Et avec cette idée que ça permet de maintenir la puissance économique américaine.
Tout à fait. Et puis surtout, ça permet d'enrichir des intérêts privés ou alors de faire des carrières prestigieuses dans l'armée, etc. Et donc l'idée, c'est qu'il y a un côté interne, endogène au militarisme américain et que c'est complètement antidémocratique. Parce que les décisions ou le point de vue des militaires n'est pas contesté, ou celui des services de renseignement américains. Et donc, il y a un côté antidémocratique à cette montée en puissance du militarisme aux États-Unis. Alors, voilà. Et on peut aussi s'interroger, par exemple, si on regarde la guerre d'Irak de 2003, sur les vraies causes de la guerre d'Irak restent quand même très obscures, parce que les causes officielles ont été évidemment invalidées. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il y a eu des fausses informations qui ont été produites, etc. Certains ont vu dans cette guerre d'Irak aussi un marché très juteux pour beaucoup d'industriels de l'armement, mais aussi toutes les sociétés de services à l'armée, dont vous parlerez demain, hein, les sociétés militaires privées, etc.
Alors on va y venir avec Joseph Stiglitz, mais d'abord, Christian Schmitt, il y a encore cette idée qui est très présente que le militarisme et les opérations extérieures sont nécessaires à l'économie américaine, à la bonne santé de l'économie américaine ?
Elles ont pris une autre forme, en partie. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le débat antérieur. Un pays auquel on ne pense pas, on pense toujours aux États-Unis, c'est la France. Car la France a deux singularités et elle fait une partie des cinq plus grands cinq pays qui ont les plus forts niveaux de dépenses militaires. Bon, alors que on n'est pas à la taille des États-Unis. Deuxièmement, parce qu'on est un des seuls pays, et c'est des collègues américains qui me l'ont fait remarquer, qui a un corps spécial qui s'appelle les ingénieurs de l'armement, qui est un corps militaro-scientifique et qui a permis des avancées et notamment donné des positions dominantes en matière d'aéronautique, etc. Donc, on a des preuves qui ne sont pas simples. Ce que je veux dire, c'est ça n'est pas propre aux États-Unis.
On connaît mieux l'exemple des États-Unis que celui de la France, en effet.
On ignore ce qu'on est. Bon, maintenant, pour l'autre question que vous posiez, n'oubliez pas qu'actuellement, les Américains jouent les deux cartes à la fois. C'est-à-dire qu'ils jouent à la fois une carte économique, guerre économique, la Chine, etc. Et puis en même temps, une menace militaire. Et ils veulent faire tomber la menace militaire iranienne. Les deux sont...
Et en même temps, un budget militaire du côté de la Chine qui augmente.
Évidemment, très loin de celui des États-Unis. Un système nouveau, très complexe, et qui change un peu notre paysage, qui est une articulation stratégique entre le militaire et le commercial.
Il y a en tout cas des économistes comme Joseph Stiglitz qui estiment au contraire que la guerre contre le terrorisme, par exemple, fragilise l'économie américaine. On l'écoute.
L'idée que les guerres sont bonnes pour l'économie est, je pense, vraiment rejetée par tous les économistes. La raison pour laquelle la guerre est mauvaise pour l'économie est que l'argent dépensé en Irak ne stimule pas l'économie de la même façon que le ferait de l'argent dépensé sur notre sol. Si vous dépensez de l'argent, disons, dans la police étrangère ou avec un contractuel philippin travaillant en Irak, cela n'aide pas l'économie, ni maintenant, ni dans le futur. Dans la même mesure que le ferait la même somme d'argent dépensée dans la promotion de la recherche, la construction d'une route ou dans la centaine de choses dont nous avons besoin ici aux États-Unis. Cela ne nous aide pas sur le court terme, cela ne nous aide pas sur le long terme.
Fanny Coulon, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Joseph Stiglitz ?
Oui, Joseph Stiglitz, qui est un grand économiste néo-keynésien, donc qui était adversaire de l'administration Bush au moment de la guerre d'Irak. Donc sur ce point, il a publié un livre en 2008 avec Laura Bimes sur le coût de la guerre d'Irak, qu'il estime en 2008, cette guerre qui s'est officiellement terminée en 2011, il estime que le coût sera au moins de 3 trillions de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, les chiffres officiels sont autour de 2 000 milliards de dollars, alors qu'au départ, l'administration Bush a annoncé quelques dizaines de milliards seulement. Mmh. Donc on est sur des sommes astronomiques. Certaines études montrent même que ça pourrait aller jusqu'à le coût de 2001 à 2015 pourrait avoir été de 4 000 milliards de dollars. Alors bon, tout ça, c'est de l'argent public injecté dans l'économie.
Et qui pourrait être injecté ailleurs, comme le disait Joseph Stiglitz.
Oui, et puis en plus, il faut savoir que la guerre d'Irak est la première guerre de l'histoire des États-Unis à être entièrement financée par la dette. C'est-à-dire que tous ces chiffres-là que je vous cite, les 3 trillions, etc., n'incluent pas le coût de la dette qu'il a fallu contracter pour financer le conflit. Donc si on rajoute le service de la dette plus le remboursement du capital...
Les montants sont encore plus importants. Alors on arrive au terme de cette émission. Malheureusement, je voudrais vous entendre l'un et l'autre conclure sur ce qui relie l'économie à la guerre. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le système économique tel qu'il existe aujourd'hui crée les conditions de la guerre, Christian Schmitt?
Non, je ne crois pas qu'on peut répondre positivement à cela. Je pense en revanche, comme je l'ai suggéré, qu'il y a aujourd'hui plusieurs formes de conflits qui sont interconnectés et de manière compliquée. Alors, il y a bien sûr des conflits d'abord commerciaux, économiques, mais derrière, on utilise un arrière-fond de pensée militaire, voire d'action. Alors, ce qui est tout à fait différent, c'est que ce sont plutôt des actions ponctuelles qui durent sur le plan militaire et des mouvements plus lents et plus continus du côté économique.
Donc des causalités difficiles à établir entre guerre et économie. Fanny Coulon, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, mais je pense qu'on sous-estime souvent le rôle du militaire dans l'économie, notamment aux États-Unis. C'est une très grande question, étant donné la taille du budget américain dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut comprendre qu'il y a énormément de contrats militaires qui irriguent toute l'industrie américaine. Et qui subventionne en fait l'industrie américaine en dehors de toutes les règles du commerce mondial, parce que le militaire n'est pas dans le cadre de l'OMC. Et il y a énormément en fait de développement technologique financé par le militaire. Et aujourd'hui, la Chine commence à faire la même chose, finance massivement, notamment via le militaire, les technologies de l'information pour rattraper les États-Unis. On est dans une période de réarmement et où de nouveau les liens entre militaire et économie sont de plus en plus importants. Et je pense qu'on retourne à une période période plus réaliste du point de vue des relations internationales que la période, évidemment, post-guerre froide.
C'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La banque BNP Paribas en ce moment en procès, des clients l'accusent de prêts toxiques, mais la banque plaide l'évolution imprévisible des marchés, difficile de savoir qui a été naïf.
Oui, qui les 2000 emprunteurs qui assignent BNP Paribas au pénal pour pratiques commerciales trompeuses, ou bien l'avocat de la banque qui présente les clients comme des victimes de la crise de 2010, c'est-à-dire crise financière. Après plusieurs procédures au civil, en tout cas, l'affaire des prêts de BNP Paribas via sa filiale Helvet Immo reste dans le viseur des associations de consommateurs. Ceux-ci avaient souscrit un prêt pour un investissement locatif défiscalisé et ils ont vu au cours du temps leurs intérêts atteindre jusqu'à 25% et la somme à rembourser plus que doublée. En cause, ces prêts spéciaux indexés en fait sur la parité euro-franc-suisse et plus risqués qu'ils n'y paraissaient puisque ce taux s'est envolé au profit du franc-suisse après 2010. En 2012, des collectivités s'étaient déjà retourné contre Dexia pour des prêts semblables. Cette fois, BNP Paribas affirme s'être appuyé sur un consensus en fait entre 240 banques qui prévoyait une bonne stabilité du cours euro-franc-suisse. Alors naïveté ou arnaque ? Eh bien, pour l'économiste et professeur d'économie à l'université de Lorraine, Yamina Tadjedine, il y avait surtout une compréhension, disons, inégale des risques.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que BNP Paribas a quand même reconnu cette possibilité de mauvaise compréhension. Et on a déjà plus de 50% des contrats qui ont fait l'objet d'un accord avec BNP Paribas pour justement transformer ce qui était des taux variables en des taux fixes. Et on en a plusieurs centaines encore, hein, près de 500, qui ont souhaité poursuivre en justice. Et donc, pour ces cas-là, je pense qu'il s'agit d'en faire aussi un principe plus global et quelque chose de reconnaître l'infériorité du créancier. Et c'est quelque chose, par contre, qui renvoie à une histoire beaucoup plus longue de protection, notamment par rapport à l'usure, d'un banquier qui pourra toujours profiter, finalement, d'une situation défavorable d'un particulier acculé. Puisque là, en fait, on se retrouve à ce que des gens aient à rembourser plus qu'ils n'ont emprunté, mais pas du fait des intérêts, mais du fait de l'évolution, ce qu'on appelle le principal, qui est la somme qui a été empruntée parce qu'elle n'était pas libellée dans la même monnaie. D'autant plus que là, dans le cas présent, c'est quand même des produits qui, même en interne, faisaient l'objet d'une critique, puisqu'on a une employée de BNP Paribas qui elle-même était sceptique quant au produit. Et par ailleurs, le produit a quand même été proposé entre 2008 et 2010. On était déjà dans la crise financière et on savait déjà qu'il y avait quand même des risques. Alors certes, on n'avait pas encore la crise de la zone euro qui a amené ce problème-là, mais malgré tout, on peut avoir des éléments en interne qui auraient pu signaler que ce produit présentait des risques.
D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a elle-même été saisie pour d'autres affaires de prêts libellés en France-Suisse, Xavier.
Et oui, le 3 octobre, la CGUE a jugé abusive des clauses d'indexation sur le franc-suisse en Pologne. Elle a ordonné aux banques polonaises de renégocier leurs contrats, ce qui leur coûterait en gros une dizaine de milliards d'euros. Et puis des prêts semblables ont été aussi proposés un peu partout en Europe, en Hongrie, en Slovénie, en Grèce, parfois par Helvet Immo, mais aussi d'autres grandes banques, hein, Commerzbank ou Santander. 1 million de personnes seraient concernées.
On passe au bref. Française des Jeux, hôpitaux, les nouvelles du week-end concernent les finances de l'État, récoltées d'un côté, données de l'autre.
Alors que Bruno Le Maire se réjouissait hier de, je cite, l'extraordinaire succès populaire de la privatisation de la FDJ avec plus d'1 milliard d'euros souscrits par les petits épargnants et 1,9 milliard de recettes espérées. Sur la question des hôpitaux, cette fois, le ministre de l'économie a aussi pour la première fois laissé entendre que l'État pourrait reprendre la dette de l'hôpital public, 30 milliards d'euros, en se disant, je le cite, ouvert à toutes les solutions du moment, pourvu qu'elles soient rapides et efficaces. Alors, reprise totale ou partielle, autre chose. Et combien a rapporté la FDJ dans les deux cas ? Réponse mercredi.
Et enfin, Xavier, au Royaume-Uni, à 3 semaines des élections législatives, les principaux partis sont en pleine surenchère économique.
Oui, en tout cas, travaillistes et conservateurs rivalisent de propositions et de gestes de séduction, en témoignent les propositions aujourd'hui devant la conférence des industries britanniques, le MEDEF local en quelque sorte, de Boris Johnson et du chef de la gauche du chef de la gauche Corbyn. Les deux mêmes propositions, baisser la taxe immobilière pour les entreprises, avec des différences sur les mesures de soutien. Dans ce duel, il faut dire que c'est le dirigeant travailliste qui a le plus fait monter les enchères en proposant la semaine dernière l'internet au débit gratuit pour tous, après déjà un plan d'investissement de 400 milliards de livres sur 10 ans. Selon l'Institute for Fiscal Studies, il ferait plus que doubler les dépenses publiques du jamais vu depuis les années 70. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know you. I'm sad, I know you.
De Chico Rose avec Afrojack. Merci beaucoup Christian Schmitt et Fanny Coulon de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Grenoble qui ont assuré ce duplex. Demain, nous nous glissons dans la peau des mercenaires qui ont monnayé leur art de la guerre au cours des siècles. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.